si utile.
Dans cette release de CPU, quand l'élite est face au progrès, d'un orchestre à haut fonctionnaire, la nouvelle frontière électronique et la démocratie totale via SMS. L'équipe d'aujourd'hui, Solarus, Eugène Lo et Daskritch, notre interviewé et Eric Walter, ex-secrétaire général de l'OPI, et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux. Ok, bah c'est parti alors.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour, je suis Daskritch. Bonjour Solarus.
Bonjour.
Ça va mieux ?
Ça va.
Ah non, c'était pas toi qui étais malade la semaine dernière. Bonjour Jérôme Bourreau, Guggenheim. Ah bah on a trouvé le malade de la semaine, je crois.
Et ouais.
Ouais. Bonjour Eugène, tu vas bien ?
Il fait coucou de la main.
Il fait coucou, il est bien. Eh ben bonjour à tous et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui es un netizen sans le savoir. L'homme politique et Internet, ça fait deux. Aussi peu miscible que ces deux-là, doit y avoir l'huile et le vinaigre. Tu peux arriver à quelque chose en secouant très 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 fort et très 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 longtemps, mais tôt ou tard, faudra passer à la mayonnaise pour que le mélange tienne entre ces deux liquides. Oui, parce que étonnamment, les milieux militants, qu'ils soient les moins démocratiques, l'extrême droite est présente depuis le milieu des années 90 sur Internet, ou les petits partis les moins représentés parmi nos élus, comme le parti pirate, hein, puisqu'il fait 1%, ou les abstentionnistes, puisqu'ils font 80%.
50 au minimum.
Ouais. Bah, ils ont une excellente maîtrise des outils offerts par Internet, mais ils sont pas très présents. Au contraire des hommes et des femmes élus par la majorité de leurs concitoyens et qui sont parfois en place depuis avant la disparition du Minitel. Chaque fois qu'un élu politique parle d'Internet, c'est pour lui faire porter les pires maux de l'humanité, allant du terrorisme breton salafiste aux destructions d'emplois chez les producteurs d'artistes musicaux, en passant par le réchauffement climatique causé par la prolifération des data centers et les malformations de fœtus dues aux ondes électromagnétiques. Arrête de te marrer, il y en a un qui fait une émission d'écologie après nous qui fait la gueule là. Il faut dire qu'une invention qui vient des États-Unis et qui, tel le rock'n'roll, le Coca-Cola et les Western, pollue le mode de vie traditionnel du bon français moyen, ben de gauche comme à droite, ça lui rue dans l'hémicycle. Quoi ? On veut ridiculiser l'électeur moyen et la ménagère de plus de 50 ans qui va acheter sa baguette, un béret sur le bec à Gauloise ? Mais il faut immédiatement stigmatiser ça. Comme contre les comics à Mickey avec la loi sur les publications jeunesse, et dans les années 90 contre les jeux de rôle en réglementant le lancer de boules de feu dans les couloirs étroits des Donjons et Dragons. C'est vrai, ces Amerlocs sont tellement des sauvages que leurs sites web se font avec le logiciel Apache. Cet état d'esprit est à ce point ancré chez nos élus qu'un président de la République haut perché sur ses talons, parla un jour de civiliser ce nouveau continent. Face à sa vision raciste et colonialiste de la terra incognita qu'est Internet, les animateurs de cette émission ont exceptionnellement un os fiché dans le nez. Présentement, ce programme donc aura un regard légèrement biaisé. Heureusement, vous n'avez pas la vidéo, et en fait, ça pique un peu. Comme l'a dit son successeur et actuel président de la République, le numérique, c'est d'abord un risque, mais ça peut aussi être une chance. À la conférence de presse du 7 septembre dernier. Oui, il est vrai qu'à chaque fois qu'un élu politique prend la parole à propos d'Internet, on peut être sûr qu'il va promulguer une nouvelle loi. Sus aux pédophiles, sus aux vendeurs de livres, sus aux loueurs d'appart, sus la prostitution. Heureusement, dans les chambres législatives, les ministères et à l'Europe, on n'y concocte pas que des lois d'interdiction, d'encadrement ou de pyrolyse de sorcières. Depuis le perchoir de l'Assemblée nationale, on y pond aussi des lois qui tentent d'inciter à l'innovation, d'autres à attirer les start-up, d'autres encore à aider nos glorieuses nationales 2S2I à l'export, et enfin d'autres qui tentent de réduire les zones d'ombre où Internet ne passe pas, ou alors avec un vieux modem 56K US robotique. Blague à part, on est dans le dilemme éternel de la fabrique des lois. Une législation doit-elle anticiper sur l'innovation au risque de la brider, ou se retrouver dépassée par l'intrépide technologie fonceuse et devoir en contenir les débordements ? Comme l'a dit l'économiste réputé et premier ministre Raymond Barre, il faut mettre d'urgence un frein à l'immobilisme. À partir du moment où la majorité des citoyens utilisent régulièrement Internet, ou que les entreprises jouent via leur base de données avec les droits élémentaires des netizens, oui, il n'est plus possible de séparer Internet des choses de la ville. Arrête Thomas, toi t'as pas compris. Chose de la ville, c'est la traduction littérale de politique. Ouais, je fais vraiment une émission avec une bande de pécores, je le savais. Sauf que le principal problème est une erreur de traitement. Pourquoi faire une loi qui s'attaque spécifiquement aux symptômes de la haine raciale dans les forums sur Internet, alors qu'il existe déjà tout un arsenal de lois pour réprimer pénalement le racisme ? Enfant du futur immédiat, je pense que tu es d'accord avec moi et l'Académie de médecine si je t'affirme que ce n'est pas la laideur de la lèpre qui tue, mais la lèpre elle-même. Donc ce n'est pas en mettant du fond de teint qu'on soigne les lépreux. Et pourtant, nous n'arrêtons pas d'entendre parler de lois spécifiques contre la diffamation sur Internet, la remise en cause d'élus dans les médias numériques ou encore la vente d'armes de guerre sur le Bon Coin. À en croire nos élus qui siègent à l'Assemblée nationale, il serait donc moins dangereux de refourguer des AK-47 dans une brocante de quartier sensible contre du liquide plutôt que via Silk Road où on ne peut y accéder que via 3 proxys dans Tor et les paiements ne se font qu'en Bitcoin. Inutile de te dire que c'est largement plus hasardeux, surtout la livraison par la poste. Bah oui. Le problème devient pire par ses effets de bord. Par exemple, pour lutter contre le terrorisme et pour mettre à l'écoute l'ensemble des Français, le procureur Molin est parti en guerre contre le chiffrement des données, qu'il soit dans votre smartphone pour protéger vos mots de passe ou pour tout paiement bancaire qui transite par l'Internet. Bref, en voulant lutter contre une menace terroriste qui n'est pas négligeable mais bien moins meurtrière que l'industrie du tabac ou les violences conjugales, les excités de l'esprit des lois veulent tout simplement interdire le commerce en ligne. On aurait voulu faire passer la France dans une économie du tiers-monde qu'on ne ferait pas mieux. À mon humble avis, c'est tout à fait le genre de privation de liberté qui font plaisir aux terroristes tout en ne résolvant pas le problème du nombre de morts par cancer ou par tapassage du concubin. Il suffit de faire une analogie, que je pique d'ailleurs à Benjamin Bayard, coucou Benjamin d'ailleurs si tu m'écoutes, le code législatif est comme un programme informatique dont le code source est écrit en français et qui est décrit un ensemble de règles élémentaires. La meilleure preuve étant que le code civil est désormais disponible sur GitHub. Aux États-Unis, Larry Lessig, ex-patron de la Mozilla Foundation, et John McAfee, le tycoon de l'antivirus, se sont lancés dans la course à la Maison Blanche. Après tout, si un acteur de western a réussi à être présent dans les années 80, pourquoi pas les développeurs logiciels dans les années 2020 ? Enfant du futur immédiat, il ne faut pas prendre à la légère les lois et leur débugage. Si le programme est très bien écrit, il fonctionne sans heurts, sinon il plante de partout et peut mettre la société en échec.
Je précise qu'il ne s'agit nullement de vouloir brider le développement de l'Internet et de ses contenus. Internet est un progrès, c'est incontestable. Internet, c'est une possibilité pour chacun d'avoir accès à une connaissance universelle et il ne viendrait à l'idée de personne de brimer ce développement positif. Mais Internet ouvre, pour les responsables que nous sommes, de grands sujets de réflexion. Et la France organisera à la veille du sommet de Deauville un forum avec les principaux opérateurs de l'économie numérique en écoutant ce qu'ils ont, que eux écoutent ce que nous avons à leur dire pour trouver un chemin pour un Internet civilisé.
le discours de Nicolas Sarkozy le 24 janvier 2011 devant le G8, au moment où d'ailleurs Barack Obama disait non, il faut absolument laisser ouvert Internet dans les pays qui sont en pleine révolution arabe. Enchaîné avec le Terminator Theme de Brad Fiedel. J'y arriverai jamais. Monter une entreprise ne consiste pas qu'à rassembler des capitaux, c'est aussi avoir des moyens humains qui, chacun de leur côté, connaissent avec doigté leur spécialité, mais qui ensemble se mêlent harmonieusement. C'est exactement ce qu'a fait notre invité à 25 ans, en fondant un orchestre philharmonique dont les musiciens venaient de toute l'Europe, avec des commandes prestigieuses, comme des prestations pour Johnny Hallyday ou même pour la chanson électorale de François Mitterrand en 88. Cette expérience entrepreneuriale dans le milieu de la culture lui permit de se faire remarquer, ce qui lui valut d'être chargé de mission pour le ministre de la Culture Philippe d'Ousteblasi en 95, puis conseiller sur le monde de l'information et des médias auprès du Premier ministre en 2002. En 2007, il rejoint l'UMP et participe à la campagne Internet de Nicolas Sarkozy, avec le succès que l'on sait bien évidemment. Mais là où il se fit connaître des internautes, c'est en tant que secrétaire général de la Hadopi de 2010 au 1er août dernier, où il se montra plutôt ouvert au dialogue des internautes dans une institution surtout connue de la plupart de ceux-ci pour ses actions de répression envers de la petite délinquance un peu trop quotidienne vis-à-vis d'un certain secteur d'activité. Mais là où en fait il a été intéressant sur ce poste-là, c'est parce qu'il a amené un dialogue très intéressant et qui nous semble être finalement un netizen aussi bien qu'un haut fonctionnaire, que nous avons souhaité interviewer dans cette release Eric Walter, fondateur d'un orchestre privé, metteur en scène du service Signal Spam, officier de l'Ordre National du Mérite et surtout photographe wikimédien assez actif. Si tu coupes mon jingle... Eh ben Eugène, bravo. Eric Walter, bonjour.
Bonjour.
Par téléphone depuis Paris, et merci en tout cas de nous avoir rejoints pour l'enregistrement. On ne va pas parler de la Hadopi ce soir, je ne souhaite pas revenir sur les avertissements qu'a reçu Solarus pour des raisons de pudeur. Ouais. Ouais.
Mais j'ai Netflix maintenant.
T'as Netflix, ouais. Bon, c'était quoi déjà le Camping 2?
Non, c'était Astérix et Obélix au service de Sa Majesté.
Ah, oh, bon d'accord. Eric, donc, quand tu as accepté ce poste, après tous les rebonds rocambolesques sur l'adoption de cette loi, est-ce que tu as imposé en soi une condition?
Il y a eu une question là.
Oui. quelle était vis-à-vis justement en fait de la situation rocambolesque, hein, je vais dire, et surtout du débat qui a été amené autour de la loi Hadopi, quand on t'a proposé le poste de secrétaire général de la commission, est-ce que tu as imposé une condition? Est-ce que tu as dit OK, mais?
Non, je dis OK.
Tu as dit OK.
J'ai mis du temps à dire OK. J'ai pas dit OK tout de suite, mais c'était pas OK, mais.
D'accord.
C'était OK de tout court.
Le rôle d'un conseiller est d'éclairer un élu politique sur certains aspects de technique, en général. Mais en fait, l'une des questions qui en soit me taraude, et je suis loin d'être le seul, c'est pourquoi finalement les hommes politiques, et les femmes politiques d'ailleurs, s'obstinent à toujours vouloir avoir réponse à tout, quitte à se discréditer, au lieu d'avoir la sagesse de dire « je ne sais pas ».
Alors ça, c'est une question marrante. C'est une question marrante parce qu'il y a plein de réponses possibles. Alors, il y a la réponse un petit peu cynique, c'est que s'il disait « je ne sais pas », il serait bâché sans doute 10 fois plus qu'en disant quelque chose qui peut être un peu approximatif.
Ah, c'est pas faux, ouais.
Il y a la question moins cynique qui est que femmes et hommes politiques sont des gens comme toi et moi, comme nous, et ils ont une idée sur beaucoup de choses. On a tous des idées sur tout. Mmh. Il se trouve que eux sont porteurs d'une fonction visible et importante dans la démocratie, et que à partir de ce moment-là, on leur demande leur avis, et leur avis est porté, pardon pour la redondance, mais leur avis a une audience est évidemment beaucoup plus importante que celle que toi et moi on a sur Twitter, ou si on veut revenir un peu en arrière, que celle qu'on a quand on discute en prenant un pot. Donc je pense qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas leur reprocher de pas dire je ne sais pas, et ça nous arrive pas souvent, même à nous, chacun dans nos discussions, de dire je ne sais pas. On essaye toujours d'avoir une idée un petit peu sur la question. Et alors après qu'on ait une connaissance hyper poussée de tel ou tel domaine technique, ça nous arrive, et ça leur arrive aussi. Nombreux sont des femmes et hommes politiques qui ont des domaines de compétences et sur lesquels ils sont excellents, et lorsque ça ressort de leur domaine de compétences, ils sont comme tout le monde. Hein, mais ce serait quand même le comble qu'ils n'aient pas le droit d'avoir un avis sur quelque chose qui n'est pas juste leur propre métier. Et enfin, ça, j'ajoute que c'est quelque chose qui m'avait frappé lorsque j'avais été... C'est ma première fonction dans la fonction publique, donc lorsque je suis rentré au cabinet de Philippe de Stoblasi, c'est extraordinaire le nombre de questions dont ils sont assaillis. Il faut qu'ils sachent tout sur tout.
Parce qu'ils sont justement dans la position en fait de prendre une décision, et donc ils doivent absolument y répondre au plus vite possible.
Oui, et puis même au-delà, parce qu'ils sont porteurs d'une part de la parole politique, et la parole politique, c'est une espèce d'ensemble, donc ils sont porteurs de quelque chose dans la société.
Mmh. Alors, loin de moi l'idée de dire tous pourris, mais on a l'impression...
C'est intérêt, oui.
Oui, ce serait dommage quand même. Mais on a l'impression que certains grands intérêts sont plus écoutés que finalement le commun des mortels. Du moins, ça, c'est l'impression que la plupart des citoyens n'arrêtent pas de reprocher sur certaines lois.
Ouais, ça, j'ai une impression que je ne partage pas. Je trouve que finalement, ce n'est pas tellement loin de la théorie du complot, ce genre de raisonnement. Pour avoir vu de près le fonctionnement de la machine politique ou administrative, hein, puisque en fait, il y a d'une part la strate politique et d'autre part la strate administrative, la deuxième étant chargée de mettre en œuvre ce qu'a décidé la première. Pour l'avoir vu fonctionner, pour avoir eu les mains dans le cambouis de ça, il n'y a pas de déséquilibre aussi frappant et presque aussi manichéen que celui que t'énonce à l'instant, et quand il dit les gens ont l'impression d'eux, etc. C'est normal de prendre en compte ce que t'appelles les grands intérêts. Les grands intérêts, c'est la vie de toute une quantité de personnes, c'est le fonctionnement du pays. C'est normal aussi, bien entendu, puisqu'on parle du fonctionnement du pays, et d'avoir à cœur d'apporter les meilleures conditions possibles à chacune des personnes qui constituent ce pays. Mais moi, en 15 ans à peu près de fonction publique, j'ai jamais été frappé par ça. J'ai été frappé au contraire par l'investissement de toute une quantité incroyable de fonctionnaires. Dieu sait qu'ils sont décriés, les fonctionnaires. C'est un serpent de mer, ça.
En ce moment, c'est un petit peu la mode, d'ailleurs, de gauche comme à droite. C'est impressionnant.
Moi, j'ai 53 d'années, et quand j'en avais 20, c'était pareil. Hein. Donc, je rassure, c'est pour ça que j'ai dit, c'est un serpent de mer. Je me souviens à l'époque où, pardon pour l'anecdote, mais elle m'a toujours fait rire. À l'époque où sont passées les 35 heures, la grosse blague qui circulait, c'était « Oh là là, pour le ministère de la Culture, ça va être dur les 35 heures. » Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il va falloir qu'ils y arrivent. Donc c'est vraiment le grand classique. Alors que, si j'en juge par ma propre expérience, donc c'est pas généralisable, mais une fois de plus, en 15 ans, j'en ai croisé beaucoup, des tonnes de gens qui se surinvestissent avec justement leur propre connaissance de leur propre cercle. Ils essayent de comprendre ce qu'on pourrait appeler les petits intérêts par opposition à ce que toi t'as appelé les grands intérêts. Donc il y a pas de petit veut pas dire péjoratif. Petit, on pense à l'individu, à monsieur et madame tout le monde, etc. Ils ont ça complètement en tête, pour la plupart de ceux que j'ai connus.
Mmh. Tout à fait.
Sans même parler des profs, par exemple.
Ouais.
C'est pas mal.
On se souvient encore du dépit de Ségolène Royal sur la réception de son site web de campagne en 2007. Toi qui étais dans le camp adverse, je vais te demander, et tu étais à un poste à peu près équivalent, tu en as ri ou tu en avais un pincement au cœur quand même?
Oui, j'ai bien sûr j'avais un poste, j'avais un poste au cœur du fonctionnement Internet. J'en ai ri ou c'était quoi l'autre option?
C'est tu en as ri ou tu en as eu, t'en avais un petit pincement au cœur pour eux quand même?
J'en avais un petit pincement au cœur tout court, parce que quand tu, il y avait quelque chose dans la campagne Internet de Ségolène Royal, qu'il y a eu aussi chez Nicolas Sarkozy, et c'était pas de mon fait, donc je le dis d'autant plus aisément. Hein. On se rappellera de Sarko TV, qui avait vraiment très 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 bien fonctionné en termes de communication politique sur Internet, qui avait été archi remarqué. Ça c'était la double initiative d'Arnaud Dassier et de François de Labrosse, donc c'est pour ça que je dis que c'était pas de mon fait. Donc le passement au cœur, c'est le passement au cœur pour les gens qui ont de l'audace, qui essayent des choses, et ça marche, parfois ça marche pas. Là, ça a pas marché.
Ouais.
Mais l'audace, mais en revanche, le point qui te donne de l'empathie, justement, pour ces personnes-là, c'est qu'elles ont osé. Mmh. Elles ont essayé. Et ça, c'était bien. Ça, c'était vachement bien.
Vis-à-vis de certains de ces hommes et de ces femmes politiques, est-ce que il y a un péché d'orgueil? Est-ce que c'est le fait que les conseillers sont plus muets en tant que courtisans qui ont créé une espèce de certitude absolue auprès de ces personnes-là et qui les mènent à l'échec?
D'orgueil, non. Après. C'est très clair que plus du monde... En fait, je n'ai pas fait de politique moi-même. Hein. Je me suis arrêté à la strate du dessous, celle que j'appelle la strate administrative. Mais tu vois très bien, et ça vaut dans l'entreprise privée, ça vaut partout. Plus tu montes en responsabilité, plus tu changes de rythme, plus tu changes de dimension, et plus tu changes de mode de fonctionnement. Là-dedans, l'orgueil, il n'y a pas beaucoup de place. En revanche, ce qui a de la place, et une fois de plus, c'est pas limité à la sphère politique, c'est la consanguinité. C'est la richesse, on va dire de patron, parce qu'à la limite, dans le monde politique, tu parles d'un patron aussi, c'est assez amusant d'ailleurs. C'est de savoir, c'est d'avoir le goût de s'entourer de personnes qui sont issues de mondes différents, c'est-à-dire de faire lui-même la mosaïque de la perception qu'il veut avoir du fonctionnement de la société. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais j'ai toujours considéré que la consanguinité, c'est-à-dire être entouré de personnes qui viennent du même moule, n'était certainement pas une bonne façon de pouvoir exercer des responsabilités, quel que soit le niveau de responsabilité, pas quand t'es dans des hauts niveaux de responsabilité.
Ça s'appelle un début de charge contre l'ENA et Polytechnique, ça.
Pas forcément, parce que je répète, ça vaut aussi dans le privé, ça peut valoir pour HEC, ça peut valoir pour l'ESSEC, ça peut valoir pour le curateur dont je suis moi-même ici, ça peut valoir pour le collège Stanislas, etc. Après, c'est une fois de plus une question de strates de réseau, mais non, c'est pas que pour l'ENA. Et des hommes et des femmes politiques qui ont su chercher ailleurs, s'entourer d'autres, et j'en suis là, prof. J'en suis d'ailleurs moi-même l'exemple achevé et l'exemple absolu. Pourquoi est-ce que je me suis retrouvé dans la fonction publique? Parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui cherchaient un autre regard et une autre façon de travailler. Donc il y en a énormément. Il y en a énormément. Donc je me méfie toujours de l'image d'Épinal que nous donne une espèce d'univers très standardisé de distribution de l'information. J'aime bien regarder derrière. Donc quand j'entends, je sais que ça m'est arrivé de discuter avec des gens, y compris sur Twitter, mais quand j'entends des jugements tranchés, etc., j'ai toujours envie de convaincre mon interlocuteur d'aller regarder derrière le jugement tranché. Et derrière le jugement tranché, il y a souvent des femmes et des hommes qui sont un petit peu différents, voire énormément différents de l'image qu'on a pu en avoir en 30 secondes, en zappant sur YouTube ou en regardant la télévision.
Quel est, d'après vous, actuellement, ce qui pose le plus, en fait, un problème d'image vis-à-vis des politiques? Est-ce que c'est le côté très spectacle le tournant très spectaculaire qu'a pris les politiques, puisque maintenant ils sont surtout invités dans des émissions de divertissement, ou est-ce que c'est le fait qu'ils font beaucoup de promesses, certaines absolument intenables, voire même ça dépasse des fois le niveau d'un commercial en 2S2I?
Alors moi, j'aime bien l'expression, ou un commercial, ou un vendeur de machines à laver, ça marche aussi.
Le vendeur de machines à laver, il essaie pas de vendre du Java.
Non, mais bon, bref, on a connu aussi ceux qui voulaient vendre des radiateurs dans le désert. Ce sont des anecdotes d'une époque passée. Mon avis de citoyen, c'est que c'est la politique spectacle, clairement. J'ai lu récemment, c'est il y a plusieurs mois, 8, 9, je sais plus, un article très intéressant justement sur les promesses de campagne, parce que toujours en tant que citoyen, c'est quelque chose quand même l'interpeller, cette permanence. Parce que 30 ans de vie d'adulte, t'as le temps de voir que les choses sont pas nouvelles. De promesses contenues, c'est pas spécifique à la France, bref, on parle du monde et du fonctionnement du monde. Et l'article était vraiment extrêmement intéressant parce qu'il disait en fait que on savait tous implicitement que lorsqu'un homme politique ou une femme politique faisait des promesses pour se faire élire, c'était pas tellement pour qu'il les réalise, on savait très bien qu'il n'allait pas les réaliser, mais c'était parce qu'on se retrouvait dans la philosophie générale de ses promesses. Et bien, on votait pour lui parce que ses promesses traduisaient en fait une vision de la société à laquelle on adhérait. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est assez vrai. Mais on n'est pas débiles. On sait tous que et les promesses de campagne ne seront pas tenues et que plus elles seront fortes, moins elles seront tenues au pied de la lettre. Mais en revanche, c'est tout à fait vrai, oui, qu'elles traduisent une direction, une dynamique politique. Et c'est pour ça, en fait, qu'on donne notre voix à quelqu'un. Parce qu'on a l'impression qu'il va dans un sens dans lequel on voudrait que le pays aille. A contrario, là, j'en reviens à la deuxième partie de ta question. A contrario, la politique spectacle, ce qu'on appelle la politique spectacle, est quelque chose que personnellement je supporte pas du tout, et je trouve que je ne supporte pas, tout le monde s'en fiche, mais que je trouve plutôt nuisible pour un bon fonctionnement de la démocratie.
Depuis ce week-end, il y a une expérience intéressante qui a été initiée par le gouvernement avec le projet de loi sur le numérique. Cette expérience, c'est d'inviter les citoyens à s'exprimer sur les articles, sur un site internet. Est-ce que c'est pas trop tard vis-à-vis de toutes les lois qui ont déjà été passées sur internet ? Et est-ce qu'il n'y a pas non plus un risque de cacophonie ou de surreprésentation d'un certain type d'opinion ?
Voilà, c'est beaucoup de questions à la fois. Trop tard, non. D'abord, parce que j'ai toujours considéré qu'il n'était jamais trop tard. Il est trop tard quand on arrête de faire. Mais que quelque chose arrive en retard, je préfère qu'il arrive. Donc, trop tard, non, c'est pas trop tard. Le cheminement législatif est long et complexe. Je trouve même ça plutôt bien. Axel Le Maire ait réussi à trouver une place pour le débat parlementaire sur ces questions-là. Cacophonie. Quel genre de cacophonie? Sur représentation, cacophonie, tout ça, c'est le travail de back-office. Hein,
On dit arrière-guichet maintenant.
On dit, ah oui, mais d'accord. C'est l'histoire du. Du type, je vais dire faire ça au début, qui ouvre son blog. Et qui, tout d'un coup, parce qu'il a 150 commentaires à modérer, se dit « Ouh là, comment je vais faire ?» Et surtout, si les 150, c'est tous les jours, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que tu as un problème... Ariane Michel, c'est libre, d'accord, d'Ariane Michel ou de back-office. La question, c'est la gestion de tous les commentaires qui vont être reçus. Et à mon avis... C'est ça qui va déterminer le succès ou l'échec de cette expérience-là. Et je suis plutôt confiant là-dessus parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus. J'ai toutes choses égales par ailleurs, mais je voyais Frédéric Lefebvre, qui est le député des Républicains français de l'étranger. Il a lui-même ouvert son site de fabrique de propositions ou d'amendements législatifs. Et tout le monde sait aujourd'hui, et donc je ne doute pas qu'Axel Le Maire et ses équipes le sachent évidemment, tout l'enjeu, c'est d'arriver à gérer la masse des réponses. Et gérer, ça veut dire aussi trier faire la part des choses, te rendre compte que quand t'as 70 commentaires qui disent sensiblement la même chose, on a compris. Et ça veut dire que c'est pas forcément 70 personnes. Ou alors, si ce sont 70 personnes, ils peuvent se poser la question de, je sais pas pourquoi j'ai dit 70, ça va se poser la question de savoir comment on les traite et ainsi de suite. Et la vraie difficulté, elle est là. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, justement, ce qui vient de lancer le maire, parce que c'est très curieux, tout en étant plutôt optimiste, de voir comment ils vont gérer cette difficulté-là, qui n'est pas nouvelle. À partir du moment où le web 2.0 est apparu, la question de la modération étendue, c'est-à-dire du traitement, de l'utilisation des commentaires, et des contributions, est venue immédiatement.
D'un autre côté, quand il y a une loi qui est en cours de constitution, donc on a parlé rapidement en fait justement de la manière dont la loi est réécrite pendant le processus parlementaire, c'est-à-dire qu'on dépose des amendements. Un amendement en soi est très difficilement lisible, puisque cela consiste à dire à la place de tel mot on met telle phrase, ou on supprime tel mot et on accorde le verbe à l'imparfait. Entre nous, moi j'ai vu des commits de code source en Haskell bien plus compréhensibles. Alors quand tu dois suivre une loi parce qu'elle t'intéresse au premier chef, quelle est ton astuce pour t'y retrouver ?
La même que la tienne, tu viens de donner ta réponse. Hein. Soit tu as vu des commits beaucoup plus compréhensibles parce que c'est ton métier, ou parce que tu connais même si c'est pas ton métier, c'est un de tes domaines de compétences. Il n'y a pas d'astuce. C'est un métier, c'est un domaine de compétences. Donc tu ne fais pas besoin, quand tu travailles sur des sujets comme ça, tu n'as évidemment pas besoin de retourner à l'article de loi d'origine pour réinsérer, etc. etc. La lecture de l'extrait de texte que constitue l'amendement, voire pire, le sous-amendement, ça c'est vachement un essai, ça permet de comprendre immédiatement, ou presque, quel est l'effet qu'il va avoir. C'est un métier, c'est juste un métier, c'est pas plus compliqué que autre chose.
Ça, c'est aussi ce qu'on reproche, ce que certains reprochent, je vais dire, au personnel politique, c'est-à-dire qu'ils ont transformé un mandat en métier.
Oui, mais là-dessus, personnellement, moi, je préfère avoir les personnes qui connaissent leur métier que les grands discours vertueux et vides de sens.
C'est pas faux. C'est pas faux.
J'aurais été adepte de la spécialisation, quel que soit le sujet.
De par ton expérience des réseaux sociaux, des forums, en fait, du biotope des internautes, est-ce que les personnalités politiques viennent te demander conseil ? Je veux dire pour autre chose que pour connaître le mot de passe Wi-Fi ou pour demander l'effacement d'un post sur Facebook d'un de leurs ex ?
Oui, pour savoir comment rebrancher la batterie du téléphone aussi.
Ah oui, d'accord.
Non, sérieusement, modestement, pas plus que ça. Ceux que je connais, oui, mais j'irai pas ouvrir un cabinet de conseil en espérant faire fortune avec ça. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent, qui commencent à connaître.
C'est pas...
De droite comme de gauche, tu vois bien les personnalités qui sont sur Twitter, les personnalités qui sont sur Twitter, très, très actives sur Twitter, je pense. Même sans réfléchir, mais t'as Christian Paul, t'as Isabelle Attard, t'as Franck Rester, t'as Frédéric Lefebvre, que j'ai déjà cité. Tous ces gens n'ont plus besoin de conseils. À partir du moment où ils sont dans le réseau, ils y sont avec leur propre personnalité, leur propre façon de parler. Personne n'a besoin de les conseiller sur ce qui est ou n'est pas Internet, et tant mieux. Et tant mieux.
À force de se prendre des répliques cinglantes sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quelques-uns des hommes politiques ou des femmes politiques qui disent « j'en ai marre, ils comprennent pas », qui craquent et qui en soi te font pitié ?
Qui jettent leur ordinateur par terre et le piétinent de rage. J'en sais rien, j'ai jamais connu, non. Je pense qu'ils font, ceux que j'ai connus, ils font comme nous tous à notre niveau. Quand on a une masse de trolls, tu regardes et tu passes à autre chose.
Hey, ça c'est un conseil à mon avis que je devrais passer à pas mal de personnes. Merci du type quand même.
C'est quand même pas le truc un peu compliqué du monde. Après, on sait tous qu'on se laisse on se laisse facilement embringuer dans des couples de trolls et autres, mais on sait tous aussi que ça sert strictement à rien. Si, bah justement, j'ai bien aimé, tu vois, quand tu parles de trolls comme ça, des discussions sur Twitter qui ont commencé très mal et qui ont fini au moins parce que j'ai pu détecter comme par la possibilité de discuter, je crois que ça s'est passé comme ça avec Jérôme, c'est passé longtemps, mais je crois même que ça s'est passé comme ça. Et en tout cas, une forme de respect mutuel, même si après, ça n'empêche pas qu'on puisse être en désaccord et faire un certain nombre de choses. Donc parfois, du troll peut naître quelque chose de plus positif. C'est pour ça que il faut faire attention. Il y a des trolls utiles et des trolls inutiles.
Et sinon, il y a les risques. Il faut aussi rappeler les risques juridiques, la diffamation et tout le reste. Il ne faut pas non plus lancer n'importe quoi. Eric, Walter, j'ai dévoilé que tu contribues à la Wikipédia, plus exactement que tu es photographe d'ailleurs.
Très amateur,
mais elles sont quand même pas mal. Hein. J'ai passé un petit tour à les regarder. Comment est vue cette activité de ta part par tes pairs?
Attends, qu'ils définissent mes pairs d'abord.
Ah, je ne sais pas, déjà les hauts fonctionnaires et éventuellement les hommes politiques.
Moi, bon, j'ai quelques pas aux fonctionnaires qui sont aussi des Wikipédiens ou médias au choix très actifs. Donc, cela, on partage nos expériences sur Wikipédia ou Wikimédia. C'est Wikimédia, donc la donnée média, c'est quand même beaucoup plus serein que Wikipédia. Je me souviens d'avoir contribué personnellement aux articles sur le mariage aux homosexuels pendant le projet de loi. Ça swingait. Donc Wikimedia, c'est calme, tu vois. Donc on échange là-dessus. Non, il y a pas mal de hauts fonctionnaires, comme tu dis, ou comme on dit, qui eux-mêmes contribuent. Alors certains de façon anonyme, moins de façon non anonyme, comme je l'ai fait. Je suis aussi un peu lié à mes fonctions, donc je préférerais faire de façon transparente. Politique, je n'ai jamais parlé avec qui que ce soit. Personne ne m'en a jamais parlé et moi j'en ai jamais parlé. Et pour terminer,
là tu viens d'en parler.
Oui, mais c'est pas grave. Non, mais évidemment, mais c'est quelque chose qui est assez ni connu ni inconnu, c'est public, donc voilà. Non, le point le plus important, c'est ma compagne qui trouve que quand on est en vacances, je passe trop de temps à aller vouloir prendre les chapelles, les châteaux et machin qui sont pas illustrés sur les fiches Wikipédia et ça la gaffe.
Elle n'est pas la seule à faire ce reproche, je te rassure. Eric Walter, merci beaucoup de t'être prêté au jeu et d'avoir bien voulu être notre invité là-dessus sur les relations entre les hommes politiques et Internet. On te remercie beaucoup et on t'espère pour toi des aventures tout aussi passionnantes.
Eh bien, merci et bonne suite d'émission.
Merci.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Kaiser Chief, I predict a riot. Either a friend of a friend, he got éphémère sur 89.1 CCPU, émission numéro 3. Nous sommes aux États-Unis en 1990 et l'histoire commence par un vol de logiciels. Apple soupçonne que le code source des ROM, équivalent du BIOS de ses ordinateurs Macintosh, n'ait été dérobé. La firme à la pomme est dans un instant critique car la gamme ultra rentable de ses ordinateurs Apple II a été retirée du marché quelques années auparavant. Mais les ventes de Macintosh ne décollent que doucettement, sûrement dû à un prix de vente assez imposant. Pendant ce temps, les émulateurs de Macintosh commencent à fleurir et pourraient noyer l'original si ces ROM courent dans la rue, comme cela a failli être le cas avec les Apple II. L'enquête du dit Larsen est confiée au FBI qui peut enquêter sur les crimes fédéraux, c'est-à-dire ayant lieu sur plusieurs États grâce à son maillage de bureaux locaux et d'agents de terrain. John Perry Barlow, entre autres parolier du groupe de rock Grateful Dead, se retrouve perquisitionné dans cette affaire. Mais lors de cette intervention dans son domicile, il se rend vite compte que les agents fédéraux menant la procédure ne comprennent pas l'informatique. Il n'était donc pas sûr que ses droits de citoyen soient correctement protégés, et notamment le premier d'entre eux, qui est d'être présumé innocent, puisque la nature même du délit est totalement imperméable aux agents de police. Comme il le dit lui-même, « Avant même de pouvoir prouver mon innocence, il fallait que je décrive le délit. » Or, depuis la fin des années 80, les États-Unis sont dans une époque de forte judiciarisation des délits informatiques allant jusqu'à l'absurde. L'éditeur de jeux de rôle Steve Jackson Games fut perquisitionné sur des soupçons de piratage informatique. En fait, la préparation éditoriale d'un jeu de rôle sur l'univers cyberpunk était vu comme un manuel criminel. Oui, un livre. On y parlait à outrance de hacker et de piratage. Oui, pour une œuvre de science-fiction présentée sous la forme d'un roman interactif. Les ordinateurs de Steve Jackson Games furent donc confisqués, mettant à mal une entreprise qui était florissante. Ainsi naquit l'IFF. Le 6 juillet 1990, organisation à but non lucratif, est fondée par John Perry Barlow, John Gilmore et Mitch Kapor. Elle a pour mission de concilier les conflits inévitables qui ont commencé à se déclencher à la frontière entre le cyberespace et le monde physique. Et là, je cite quand même le manifeste lui-même. Si de nombreuses organisations de défense citoyenne existent déjà aux États-Unis à cette époque-là, comme l'ECLU, l'American Civil Liberty Union, elles n'étaient pas encore suffisamment spécialisées et impliquées dans la révolution informatique. La Electronic Frontier est une référence directe à l'ère des pionniers du Far West, une zone de liberté, d'opportunité, au-delà des frontières connues où tout est à écrire. Cette référence libertaire, libertarienne et libérale se heurte à une autre logique. Le bloc de l'Est s'effondre, l'URSS est en train d'imploser. Les forces de l'ordre doivent donc repérer au plus vite quelles sont les menaces potentielles, quitte à s'y méprendre. Pour elles, il est acquis que l'ennemi intérieur est là. Les hippies de la Silicon Valley veulent faire tomber l'ordre établi. En réponse à cet état d'esprit, John Perry Barlow écrit en 1996 la Déclaration d'indépendance du cyberespace, attaquant à ce moment-là la Communication Act, loi qui, selon lui, risquait de mettre Internet sous la coupe du gouvernement américain. Des organisations existent à travers le monde qui tentent elles aussi de réduire les cassures idéologiques entre le monde physique et Internet, comme la Quadrature du Net. Mais l'IFF reste la référence car elle est sur l'ensemble de la chaîne politique, du lobbying auprès des législateurs, l'interpellation des gouvernements et surtout l'assistance juridique. Et l'IFF se montre bien vite fort utile pour le secteur informatique, allant aussi bien avant les lois, devant l'exécutif et au créneau devant les tribunaux, parfois jusqu'à la Cour suprême des États-Unis pour faire invalider des lois qui ont été passées. Et à l'heure de la multiplication des traités internationaux économiques qui remettent en cause loi nationale et droits des citoyens, l'IFF a la masse critique suffisante pour attirer le regard des médias. Très rapidement, l'organisation s'est internationalisée, comme Internet, et avec l'apparition d'autres fondations autour des standards informatiques, comme le W3C, du logiciel libre, comme Mozilla Foundation, ou de gestion de l'infrastructure d'Internet, comme l'IETF, elle a trouvé des alliés de poids qui n'hésitent pas à relayer ses campagnes. L'IFF est désormais un modèle non seulement pour la Quadrature du Net, mais aussi pour Amnesty International et Reporters sans frontières, qui sont désormais sensibilisés sur les armes numériques extrêmement puissantes contre la démocratie. Mais tout le problème est justement l'omniprésence du numérique et donc la démultiplication des terrains d'intervention de l'IFF. Du coup, n'est-elle pas allée trop large et ne fait-elle pas un peu trop le jeu de certaines des très grandes entreprises issues du numérique ?
Un site comme ça avec des traits. Non, moi je veux pas de ça. Je veux un site qui nous ressemble. Et pas nous qui ressemblions aussi. Vous savez, c'est très fort ce que je dis là. Hein. Parce que c'est très puissant le lobby d'Internet. Très très puissant. Faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Alors, mais dans quel objectif ? Qu'est-ce qu'on recherche ? On cherche à parler aux gens, on cherche à exister, on cherche à contourner le nom du pouvoir, on cherche à contourner le mur des médias, on cherche à mettre en commun nos intelligences.
Ségolène Royal qui revient sur son site qu'elle avait fait pour son élection en 2008, enchaînée avec la bande originale du film 99 francs. Le morceau s'appelle La Réunion.
D'archéologie anthropocénique. Premier semestre. Attention, toute reproduction complète ou partielle des cours des professeurs de l'université Alain Minc n'est exclusivement autorisée qu'à ses étudiants et anciens diplômés. Toute reproduction illégale est susceptible de poursuite. La peine encourue est l'effacement.
Bonjour tout le monde.
Bonjour professeur.
Le cours d'histoire d'aujourd'hui portera sur la politique au XXIe siècle. Ce que nous savons de la politique de cette époque est assez étrange. Il s'agit d'un de ces moments charnières où la politique connaît une révolution majeure, puisqu'elle passe du vote dit papier au vote dit électronique et parfois par le vote armé. Au tout début, un mode d'élection assez inédit fait son apparition. Les élections et désignations furent remplacées par des jeux de télé-réalité, où les candidats devaient manger des testicules de taureau ou encore survivre sur la plage déserte d'un Club Med en hiver. Selon nos observations et les traces de l'époque, les citoyens restaient assis devant un appareil rudimentaire de diffusion audiovisuelle appelé télévision. Les citoyens votaient à l'aide de courts messages télégraphiques pour leur candidat préféré. Pour le candidat de la droite, envoyez 1, stop. Pour le candidat de la gauche, envoyez 2, stop. Pour le candidat du centre, demandez le 22 à Asnières. Nous avons ensuite retrouvé des boîtes transparentes pourvues d'une fente dans laquelle les membres de la société glissaient les papiers correspondant à leur vote. Selon les régions et les époques, les personnes autorisées à prendre au vote n'étaient pas toujours les mêmes. Parfois, les femmes étaient autorisées à voter, les jeunes, les vieillards pouvaient voter, mais pas encore les logiciels. Les textes que nous avons retrouvés sur la République française nous indiquent que la loi émanait du peuple, par le peuple, pour le peuple. Nous pouvons donc légitimement penser que ce rituel du vote avait lieu régulièrement, peut-être une fois par semaine, afin que le peuple puisse exprimer sa volonté sur l'évolution et l'écriture des lois. Afin de simplifier ce rituel démocratique hebdomadaire, le vote devient électronique. Nous avons retrouvé un exemplaire d'une machine de vote de 2012, mais une protection logicielle nous empêche de lire son code source, pour savoir comment elle fonctionnait. Ainsi donc, les citoyens confiaient leur vote démocratique à une machine dont ils ne savaient rien du fonctionnement. Ceci à des fins d'équité et de transparence dans l'opacité. Kevin, au fond, on écoute. Or, des citoyens voulurent contrôler les résultats. Cela provoqua des émeutes, mais plutôt que de rendre les votes contrôlables ou tout du moins les algorithmes, ils simplifièrent le processus de vote. C'est ainsi que se mit en place la démocratie représentative. Selon les textes retrouvés, il s'agissait d'élire des représentants qui étaient chargés de décider à la place des citoyens. Ces représentants suivaient des études spécifiques qui les formaient spécifiquement à faire de la politique, à gérer des budgets, communiquer devant un public, mener des campagnes et surtout garantir l'équité de tous les citoyens dans l'accession aux fonctions politiques. Certains pays optimisèrent encore le processus en donnant tous les pouvoirs à une seule personne. Ainsi, les processus décisionnels étaient simplifiés. Une seule personne était en charge d'adapter les lois en fonction des souhaits des citoyens. Selon les documents officiels de ces pays, c'était avec ce modèle que les citoyens étaient plus heureux, à l'image de la Corée du Nord de Kim Jong-un, un exemple historique en la matière. Les images d'archives nous montrent une foule en liesse sur son passage, preuve de sa bienveillance envers son peuple. À l'école, dans tous les pays, on apprenait à chaque écolier qu'il vivait dans le plus merveilleux et le plus démocratique des pays. On lui apprenait la liberté et ses limites, autant que l'expression citoyenne et ses limites, ou encore ses devoirs sans limite envers l'État. Surtout, on leur apprenait que les horribles dictatures sont toujours ailleurs et qu'ils devaient être contents d'être protégés par une armée qui possède la bombe nucléaire, celle qui ne devait jamais servir mais que l'on gardait quand même au cas où. Au final, malgré toutes ces tentatives de démocratie, les groupes humains persistaient à ne servir que leurs propres intérêts. C'est ainsi que fut mis en marche le logiciel président, dirigeant de notre pays et capable de prendre des décisions logiques et désintéressées. L'histoire ne dit pas qui programma ou mit en service le logiciel président. Toute donnée relative à sa conception fut effacée ou réécrite.
Il faudrait nationaliser Internet. C'est la proposition surprenante de l'UMP Jacques Myard, rien que ça.
C'est vrai, à regarder du fumier des faux docteurs, hein, le député des Yvelines était hier l'invité de la très à droite radio Courtoisie. Et à propos du web, il semble assez peu documenté, mais il a un avis disons très tranché. Écoutez-le.
La vérité est que le réseau Internet aujourd'hui est totalement pourri.
Oui, oui.
Et quand je dis pourri, c'est que peut-être nous avons tous dans notre réseau Internet des chevaux de Troie.
Oui.
Qui vont se réveiller peut-être dans un an, peut-être dans 18 mois, peut-être demain matin. Donc c'est un réel problème et j'espère qu'on va prendre conscience de la nécessité de nationaliser ce réseau et d'avoir la capacité de mieux le maîtriser. Les Chinois l'ont fait.
Oui.
Bah oui, écoutez, nationalisons Internet.
Oui, et puis alors
tout est pourri là-dedans. Enfin,
un réseau par définition mondial, et puis alors pour ça, hein, c'est vrai, prenons modèle sur cette grande démocratie qu'est la Chine, Monsieur Myard.
Bien sûr, et Monsieur Myard a qui a intérêt à se faire élire au Parlement chinois, il verra comme c'est facile.
Voilà, l'extrait vient de LCI, donc quand LCI se fout de la gueule d'un député qui est passé sur Radio Courtoisie, qu'on ne dise pas que cette télé est de droite. Je crois qu'on va enchaîner à cause du temps, et d'ailleurs, il est temps de passer au temps.
La météo d'Internet.
Météo des pistes Internet pour la journée du 1er octobre 2015. À toute station, ici Paris Radio. À toute station, ici Paris Radio. Paris Charles de Gaulle, 18h15. Ciel clair, point de rosée très frais, sans glaçons. Température au sol glaciale depuis l'évaporation de JJSS du Centre mondial de l'informatique et de l'Agence informatique. Il ne fait pas bon à jouer à Malin, Madelin et demi et choisir si on a tout à dire ou Renataire. Visibilité faible à quasi nulle, à gauche comme à droite et au centre. Vent dominant d'ouest à far west internet. Pour plus de renseignements, écoutez Frédéric Lefebvre sur 107.7, fréquence des autoroutes de l'information. Piste ouverte toutes, prioritairement Judex, Christina et Ardoise. Toulouse-Blagnac, 18h16, QNH 1024 bits par kilo-octet, point de rosée, mais je dis pas non, à un peu de Bordeaux. Forte concentration de cumulo consensus mou à tendance orageuse, avec une dépression provenant du cercle polaire, article 20 sur le secteur Lima-Papa-Mike. Pour toute dérive de ces secteurs LSEN, LPM ou LOPSI, contactez Paris Service des Renseignements, toutes les pistes sont ouvertes, surtout à l'encontre des conversations enregistrées. Empruntez en priorité Eloi, Ariane et Figeis. Lyon-Satolas, 18h17, temps clair, visibilité citoyenne totale, liste des pistes fichées par la police de l'air et des frontières. Edwige 1 et Edwige 2 modifiés hortefeux, risque de dérapage en bout de tarmac. Le stupéfiant statut de stick stoppe tout trafic. Edvirsp au 240 est réservé aux lignes Barbouze Airline et DCRI Tramworld. Ouverte en permanence FAED et FNAEG. JFK, LaGuardia, Newark, 11h17, TU. Peu d'informations fiables depuis que le contrôle aérien est en plein Swartz et retombe dans ses petites manings habituelles. De prisme à bord, les vols internet se sont fait damer l'espion à tous les échelons. Merkel idée de préférer les longs emails aux courts courriers. Tripoli Airport, 11h, 18 minutes TU, trou d'air, trou de mémoire et amnésie spartiale parviennent à éviter de coincer la bulle dans une situation délicate. Le vol KOTAM 001 peut aborder la piste C comme Candy. Pyongyang Sunan Airport, 11h, 19 minutes TU, Sony Kwasi Malipans. À toute station, ici Paris Radio. À toute station, ici Paris Radio. Paris Charles de Gaulle, 18h, 20 minutes. Il est chaud celui-là. Mais Marco Lagnot, en fait, Paris Radio est une radio qui existe vraiment, et c'est une synthèse vocale en fait, et c'est à destination du trafic commercial de l'aviation civile. Voilà. Tous les détails sur le site web, forcément. On va peut-être arrêter là. C'était CPU, le programme carré petit utile. Et pour cette release, l'équipe était constituée de Jérôme Bigi, chef legislator officer by procuration, Daskrit, chef lobbyist officer, Solarus, chef secretary officer, Marco Lanier, chef senator officer, Eugène Lowe, chef playmaker officer. La release a été shippée avec les moyens techniques d'Equito, de l'onde miroir, de combustible et de radio éphémère. Et merci au public présent. L'intégralité du programme, des extraits, des sources sont disponibles sur le site cpu.daskridge.net. Vous pouvez commenter et partager. Prochaine release, la mémoire humaine et la mémoire informatique. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez, il est l'heure de Monique Blanquette Show. Bye bye.